Nous allons aborder aujourd'hui probablement un des côtés les plus originaux de l'éthique de Calvin, un des côtés les plus intéressants aussi, et un des côtés qui aura été le plus fécond dans sa manière de voir les choses. Et probablement si vous êtes vous-même issu de cette tradition-là, ou si vous connaissez des gens qui l'incarnent, entre guillemets, vous retrouverez bien des choses de la manière particulière dont Calvin conçoit son éthique. On l'a vu dans les cours précédents, l'éthique de Calvin est d'abord une éthique religieuse. Et on peut même dire, on l'a vu à certains moments, une éthique radicalement religieuse. Une éthique qui ne se propose rien moins que la sainteté. Et de ce point de vue-là, il y a bien continuité, mais surtout discontinuité, entre l'éthique de Calvin et les éthiques philosophiques. Continuité, ouvrez la porte parce que j'ai l'impression que quelqu'un pense que la porte est fermée. Merci. Continuité au sens où Calvin s'inscrit clairement dans la tradition eudémoniste, la tradition perfectionniste, la tradition des vertus, mais discontinuité au sens où le christianisme suppose un renouvellement total des facultés humaines, une coopération avec le Saint-Esprit, une compréhension du bonheur qui suit le paradoxe des béatitudes. En ce sens, l'éthique chrétienne est incompréhensible pour la philosophie. Un sermon de Calvin l'illustre parfaitement lorsqu'il met en jeu la continuité et la rupture. D'un côté, il soutient que les stoïciens ont parlé de manière plus exquise que les autres philosophes de l'Antiquité, vous voyez son inspiration, où est son cœur, entre guillemets, mais que les aristotéliciens ont procédé plus subtilement encore que les stoïciens. Donc vous voyez qu'à choisir, il préfère Aristote aux stoïciens, même s'il aime beaucoup les stoïciens, dans la définition qu'ils ont donnée du bien et de la vertu. Il est néanmoins manifeste, poursuit Calvin, que les béatitudes tranchent avec toutes les définitions du souverain bien. Ainsi, dit-il, tous ceux qui sont attachés à ce monde, ceux qui dépendent de leur opinion commune et ceux qui veulent jouir ici-bas de leur félicité, il est impossible qu'ils sachent que la doctrine des béatitudes vaut tellement qu'ils se dépiteront toujours. On sera toujours dépité si on veut juger des béatitudes à l'aune de nos sentiments naturels. C'est pas ça que nous cherchons spontanément. Autrement dit, il y a bien une distinction fondamentale de l'éthique religieuse avec la philosophie. Je pense qu'on l'a dit suffisamment. Et cette distinction renvoie à une distinction plus fondamentale encore, que je vous rappelle sur vos textes, c'est le premier texte que je vous propose. Il nous faut user, dit Calvin, d'une distinction qui sera telle, à savoir que l'intelligence des choses terriennes, des choses terrestres, est autre chose que des choses célestes. J'appelle choses terriennes lesquelles ne touchent pas jusqu'à Dieu et son royaume, ni à la vraie justice. La vraie justice, c'est évidemment la justification, l'immortalité de la vie future, mais sont conjointes avec la vie présente et quasi encloses sous les limites de celle-ci. Les choses célestes, je les appelle la pure connaissance de Dieu, la règle et raison de vraie justice et les mystères du royaume céleste. Sous la première espèce sont contenues la doctrine politique, la manière de bien gouverner sa maison, c'est-à-dire l'économie, littéralement. Donc, dans le royaume terrestre sont le politique, sont l'économie, les arts mécaniques, la philosophie et toutes les disciplines qu'on appelle libérales, les arts libéraux, comme on les appelle encore à cette époque-là. À la seconde, se doit référer la connaissance de Dieu et de sa volonté et la règle de conformer notre vie à celle-ci. Autrement dit, Calvin reprend ici la distinction très très classique luthérienne entre les deux règnes, le règne de la terre ici-bas, le règne du ciel, le royaume du ciel qui est le royaume du Christ, ici-bas c'est le royaume du prince, ici-bas sont les sciences libérales, les sciences qui découlent de la raison, y compris la philosophie, y compris une éthique séculière, entre guillemets, et de l'autre côté, il y a le royaume du ciel, avec la manière de conformer notre vie à cette règle qui nous vient de Dieu et de sa parole. Autrement dit, il y a des textes devant, Yono, si vous voulez. Donc, autrement dit, il y a en quelque sorte deux éthiques. Une éthique philosophique et une éthique proprement religieuse. Il faut souligner ici que la dissociation, la distinction, comme le dit Calvin, prévient l'immixtion d'une sphère sur l'autre et protège d'abord la sphère religieuse. La raison, la nature, la philosophie, le politique ne peuvent qu'obscurcir le sens de la vraie justice et de la justification et du salut. Mais à l'inverse, le politique se voit aussi protégé de tout millénarisme qui ne ferait que dénaturer sa tâche propre. De ce point de vue-là, on peut dire que Calvin est bien précurseur de la laïcité, c'est-à-dire de la volonté qu'il n'y ait pas d'ingérence de l'Église dans les affaires séculières, de même qu'il ne doit pas y avoir d'ingérence de l'État dans les affaires religieuses. On verra que ce principe de séparation va souffrir toutes sortes d'exceptions, mais le principe est néanmoins clairement posé. Le règne terrestre et le règne céleste sont deux règnes distincts l'un de l'autre. Une fois les champs distingués, et Calvin encore une fois ne fait que reprendre cette distinction de Luther, il prend néanmoins soin de les articuler l'un à l'autre, et c'est là qu'il est plus intéressant. Les deux champs sont articulés d'abord en Dieu, parce qu'en effet, on peut dire certes du royaume céleste qu'il est le royaume du Christ, mais il n'en demeure pas moins que le royaume ici-bas et l'ordre du monde ici-bas est bien lui aussi voulu par Dieu. Le champ des affaires humaines, s'il ne relève pas spontanément de la christologie, relève bien néanmoins de l'action de Dieu et de sa providence, et l'action humaine, autrement dit, on le verra, aura aussi sa place, et aussi l'action chrétienne dans le monde ici-bas. Donc on va voir comment le monde d'ici-bas est gouverné par Dieu, selon une autre économie que l'économie de la révélation et l'économie de l'évangile, mais il dépend néanmoins lui aussi de Dieu. Comment se fait-il qu'il y ait en Dieu deux économies, l'une qui conduit à l'évangile, l'autre qui maintient à l'ordre du monde tel qu'il est, et qu'est-ce que ça va signifier pour l'action des chrétiens eux-mêmes? Alors, tout d'abord, donc, la première partie de ce que je voudrais vous présenter maintenant, c'est comment l'ordre naturel, puisqu'il s'agit de ça, ordre naturel par rapport à l'ordre révélé, comment l'ordre naturel vient lui aussi de Dieu. Je vous l'ai dit, Calvin développe une théologie très prolixe sur la providence. La providence n'est pas simplement la manière dont Dieu a créé le monde à l'origine des temps, mais la manière dont ce monde, à chaque instant, est recréé par Dieu. Alors, si on avait un petit peu de temps, on verrait qu'évidemment, quand on pense le monde naturel, on doit le penser en relation avec la providence. Mais si on prend les choses cette fois du point de vue de l'homme, et pas du point de vue de Dieu, on peut dire que tout homme, c'est du moins ce que pense Calvin, tout homme doit au moins reconnaître une chose très simple, c'est qu'il n'est pas un animal. Bien sûr, il y a quelque chose de l'animal en nous, chacun d'entre nous, mais néanmoins, la manière dont les hommes vivent ensemble ne ressemble pas à la manière dont les animaux vivent ensemble. Pourquoi ? Eh bien, Calvin repère quelques différences fondamentales. La première grande différence, évidemment, c'est que les animaux sont dirigés par leur instinct. Or, ça n'est pas le cas des hommes. Bien sûr, il y a quelque chose de l'instinct chez l'homme, et le petit bébé apprend à téter sa maman, et probablement, peu à peu, apprend à marcher. Bon. Mais dès qu'on sort, quelque sorte, de mécanisme élémentaire, ce qui gouverne la relation des hommes entre eux n'est pas simplement l'instinct. C'est autre chose. Et dans cette différence-là, Calvin voit le signe qui doit être reconnu, encore une fois, non seulement par les croyants, mais par tout homme, qu'il se distingue des animaux. Alors, vous trouverez sur vos feuilles un texte peut-être un tout petit peu difficile, donc on ne va pas le reprendre peut-être complètement, dans lequel Calvin se demande si les hommes non-croyants doivent être choqués par l'idée que Dieu choisit, élit un certain nombre d'hommes pour les sauver. Question qui peut nous sembler un peu bizarre, mais est-ce que finalement, si on n'est pas croyant, on doit trouver Dieu injuste dans le fait que Dieu ne veuille pas sauver tous les hommes? Et il commence ce texte en disant que peut-être que Dieu ne sauve pas tous les hommes, mais en tous les cas, il les a tous créés à son image. Et le fait qu'il les a tous créés à son image signifie qu'il y a dans la création et dans l'ordre naturel des choses des marques qui demeurent du fait que Dieu a créé tout homme à son image. La lumière luit dans les ténèbres, dit-il, comme s'il disait que nonobstant que le péché a ainsi perverti le sens des hommes et comme anéanti leur nature, toutefois, encore, Dieu continue à les éclairer tellement qu'on aperçoit quelques traces de la création première. Combien donc que nous n'ayons pas ce qui avait été donné du commencement à notre père Adam, et à grand-peine en retenons-nous une petite portion, si est-ce que nous devons bien sentir que Dieu nous a fait un bien inestimable quand il a plu de nous créer hommes et qu'il nous a ainsi séparés des bêtes brutes. Le terme « bête brute », vous allez le voir, revient constamment sous la plume de Calvin. Nous ne sommes pas des bêtes brutes, nous sommes des humains. Et ça, tout homme doit reconnaître qu'il n'est pas simplement un animal gouverné par son instinct, ou gouverné par le rapport de force, ou gouverné par l'instinct de domination, ou l'instinct de prédation, en quelque sorte. Nous sommes des êtres humains, et tout être humain reconnaît, en quelque sorte, qu'il est humain, et en ceci qu'il est, évidemment, pense le théologien, créé à l'image de Dieu. Et vous le verrez dans cet extrait, Calvin finit par dire, même les païens, même les auteurs antiques, même les auteurs païens ont reconnu qu'évidemment l'être humain n'a rien à voir en ce sens avec les animaux. Donc, écoutons bien ce que disent les auteurs païens. Les auteurs païens reconnaissent qu'il y a une dignité particulière de l'humain, et cette dignité particulière de l'humain doit nous faire percevoir qu'il y a quelque chose de bon qui demeure dans la création, même s'il y a eu le péché, il reste quelque chose. De ce point de vue-là, Calvin a une vue beaucoup plus optimiste sur la nature humaine que Luther ou que Saint-Augustin. Bon. Une fois qu'on a dit ça, eh bien, Calvin va faire un pas de plus. Et il va dire, eh bien, regardez tout ce qu'il y a de bon dans l'humanité telle qu'elle est. Et tout ce qu'il y a de bon dans l'humanité telle qu'elle est, d'où est-ce que cela vient? Évidemment, ça ne peut venir que d'une seule source, Dieu. Donc, ça n'est pas parce que Dieu choisit en quelque sorte un peuple pour l'élire, Israël puis l'Église, que Dieu n'agit pas profondément dans l'ordre naturel pour faire toutes sortes de choses qui lui sont évidemment imputables. Et vous allez voir dans ce petit extrait combien Calvin, c'est un des textes les plus admirables en quelque sorte de Calvin, un texte qu'on a peu l'habitude de lire, mais qui est pourtant magnifique, combien Calvin est proche de la tradition humaniste. Pour cette raison, quand nous voyons aux écrivains païens cette admirable lumière de vérité, laquelle apparaît en leurs livres, cela nous doit admonester que la nature de l'homme, combien qu'elle soit déchue de son intégrité et fort corrompue, ne laisse point d'être ornée de beaucoup de dons de Dieu. Si nous reconnaissons l'Esprit de Dieu comme une fontaine unique de vérité, nous ne mépriserons pas la vérité partout où elle apparaîtra, sinon que nous voulions faire injure à l'Esprit de Dieu. Car les dons de l'Esprit ne se peuvent vilipender sans le mépris et opprobre de celui-ci. Or maintenant, pourrons-nous nier que les anciens jurisconsultes n'aient eu grande clarté de prudence en constituant un si bon ordre et une police si équitable? Dirons-nous que les philosophes aient été aveugles, tout en considérant les secrets de nature si diligemment qu'en les écrivant avec tel artifice? Dirons-nous que ceux qui ont enseigné l'art de disputer, qui est la manière de parler avec raison, n'aient eu nul entendement? Dirons-nous que ceux qui ont inventé la médecine ont été insensés? Des autres disciplines, penserons-nous que ce soit folie? Mais au contraire, nous pourrons lire les livres qui ont été écrits de toutes ces matières sans nous émerveiller. Or, nous nous en émerveillerons parce que nous serons contraints d'y reconnaître la prudence qui y est. Et estimerons-nous rien excellent ni louable que nous ne reconnaissions venir de Dieu? Car autrement, ce serait une trop grande ingratitude en nous, laquelle n'a pas été aux poètes païens qui ont confessé la philosophie, les lois, la médecine et autres doctrines être des dons de Dieu. Puisse donc ainsi être que ces personnages qui n'avaient aucune aide que de nature ont été si ingénieux en l'intelligence des choses mondaines et inférieures, tels exemples nous doivent instruire combien notre Seigneur a laissé de grâce à la nature humaine après qu'elle a été dépouillée du souverain bien. Bon. La nature humaine a été dépouillée du souverain bien. Ce souverain bien, encore une fois, il n'y est accessible que dans le Christ. Il n'empêche, la nature humaine est illuminée par la grâce de Dieu laissée dans ce que l'humanité peut produire de meilleur, sans aucune aide, autre aide que la nature, dans la médecine, dans le droit, dans la philosophie et dans toutes les autres doctrines qui viennent de Dieu. Évidemment, tous ceux qui sont les jurisconsultes, les médecins, les hommes politiques et les philosophes ne savent rien de Dieu en un sens. Mais il n'empêche que ce qui est de meilleur en l'homme vient comme des petites sources de la source unique qui est Dieu lui-même. Vous l'aurez noté certainement, il y a dans cette énumération de Calvin, bien sûr, les sciences, la médecine. J'aurais beaucoup à dire sur le rapport de Calvin aux sciences naissantes. Bien sûr, Calvin, on peut lire chez Calvin des passages où quand tout à coup il y a la peste, il se dit « Oh, il doit y avoir quelques sorcières par là ». C'est un homme encore du Moyen-Âge. Et puis en même temps, si vous lisez le petit traité de Calvin contre l'astrologie, eh bien vous verrez que Calvin fait une distinction très très nette entre astronomie et astrologie. Il faut développer l'astronomie, mais pas l'astrologie, parce que l'astrologie est une doctrine, pense-t-il, qui est entièrement fondée sur des arguments non scientifiques. Donc, il y a la science. Mais, au fond, ce n'est pas la science qui intéresse Calvin ici. Ce qui l'intéresse avant tout, c'est le politique. Et plus encore que le politique, c'est le droit. Pour Calvin, le politique fait partie de l'accomplissement naturel de l'homme. Je crois que je vous ai déjà mentionné ce texte, mais il est important. Calvin reprend d'Aristote cette idée que nous sommes des animaux politiques. Animal politique, zoon politikon, chez Aristote, veut dire que nous sommes des animaux sociaux. Nous sommes faits pour vivre ensemble. Alors vous me direz, c'est vrai aussi des abeilles et c'est vrai aussi des moutons. Mais au contraire des abeilles et des moutons, nous ne pouvons vivre ensemble, et là encore l'argument vient d'Aristote, que par une organisation proprement humaine qui est le politique et qui repose sur le droit. Ce qui n'est pas le cas des abeilles et des moutons. Il nous faut confesser ce qui s'ensuit, dit Calvin, c'est qu'en tant que l'homme est de nature compagnable, c'est précisément cette idée aristotélicienne de l'animal politique. Nous sommes faits pour vivre en compagnie, nous sommes de nature compagnable. Il est aussi enclin d'une affection naturelle à entretenir et à conserver la société. Remarquez bien que cette perspective ne met pas en avant un lien politique qui reposerait, par exemple, sur le pouvoir ou sur le rapport de force, ni même sur l'utilité, ni même sur la nécessaire riposte du politique à la violence et au désordre. Elle regarde d'abord le politique comme une forme accomplie de socialité. Anthropologiquement, cela signifie que nous ne pouvons vivre pleinement sans institutions politiques. Pour être heureux, nous avons besoin d'institutions justes. On sait qu'Aristote poursuit cette idée par celle que l'homme se distingue justement des autres animaux grégaires, des abeilles dans le texte d'Aristote, par le fait qu'il n'est pas guidé par l'instinct, mais par le langage. C'est certainement ce passage qui inspire Calvin lorsqu'il poursuit. Pour cette raison, nous voyons qu'il y a quelques cogitations générales d'une honnêteté et ordre civil imprimées en l'entendement de tous les hommes. De là vient qu'il ne s'en trouve nul qui ne reconnaisse que toutes assemblées d'hommes se doivent régler par quelques lois et qu'il n'est principe de ces lois en son entendement. De là vient le consentement qu'ont eu toujours tant les peuples que les hommes particuliers à accepter les lois, parce qu'il y a quelques semences en tous qui procèdent de nature, sans maître ni législateur. Le langage aboutit nécessairement à des règles, et ces règles se formalisent dans le droit. L'ordre politique est ainsi d'abord, chez Calvin, un ordre juridique. Il ne suffit pas aux hommes de se plier à des lois mécaniques, comme dans le monde physique, ou à des lois de l'instinct, comme dans le monde animal. La vie humaine n'est pas possible sans le droit. Le thème est absolument central chez lui, et il est théologique. L'universalité de la nécessité d'un ordre civil rapporté à la nature renvoie à la providence. Et ici, c'est pas simplement la marque que Calvin a d'abord été un juriste, comme vous le savez, mais parce que, pour lui, le droit, la loi, est au cœur de l'action divine. Vous vous en souvenez, c'était vrai pour l'éthique religieuse. La loi révélée était au cœur de l'éthique religieuse. Eh bien, dans le monde profane, la loi sera aussi au cœur du monde profane. Calvin revient sur cette question dans le dernier chapitre qui clôt l'institution de la religion chrétienne sur le gouvernement civil. Pas rien que le dernier mot de son grand ouvrage théologique, ce qu'on met au début, c'est très très important, vous vous souvenez ce que mettait Calvin au début, la somme de toute notre sagesse, c'est de connaître Dieu et de se connaître, et le dernier mot de l'ouvrage, c'est sur le gouvernement civil, sur l'État. Sur le politique. Et dans ce passage-là, Calvin commence une fois de plus par rappeler que le royaume spirituel du Christ et l'ordonnance civile, donc le règne civil, ne doivent pas être confondus. L'un et l'autre sont distincts, c'est le premier texte que je vous soumettais aujourd'hui. Mais il n'en reste pas moins que trois thèmes sont centraux quand on essaye de penser l'état du monde humain, simplement humain, mais humain, c'est-à-dire pas bête brute, pas brutal. Si on pense le monde comme monde humain, trois thèmes deviennent saillants. D'une part, le magistrat, c'est-à-dire le souverain, en même temps que le juge, la loi, et enfin, le peuple. Le fondement du pouvoir du magistrat, pour Calvin, n'est pas généalogique, pas plus d'ailleurs que démocratique. Pour Calvin, être magistrat, c'est d'abord une vocation et un ministère, tout comme celui du pasteur. Le magistrat, dit Calvin, plus encore que le pasteur, est vicaire de Dieu. Ça veut dire quoi, vicaire de Dieu? C'est quoi un vicaire? Il agit à la place de, au nom de. Le magistrat, c'est le représentant de Dieu sur la terre. Il est, qu'il soit païen ou chrétien d'ailleurs, peu importe, il est chargé par Dieu d'exécuter son office et de le représenter auprès de ses sujets. En somme, dit Calvin, vous trouvez ça sur vos textes, en somme, si les magistrats se souviennent qu'ils sont vicaires de Dieu, ils ont à s'employer de toute leur étude et mettre tout leur soin de représenter aux hommes, en tous leurs faits, comme une image de la Providence. Oui ? Oui. En général, il ne le sait pas. Alors, évidemment, il y a un texte biblique qui est sous-jacent à tout ça, c'est Romains 13. Nul n'aurait de pouvoir de Dieu si... nul n'aurait de pouvoir s'il ne l'avait pas reçu de Dieu. Et quand Paul écrit Romains 13, dit Calvin, il pense à César. César ne sait pas qu'il reçoit son pouvoir du Dieu d'Israël. Et pourtant, c'est bien le Dieu d'Israël qui donne son pouvoir à César. Donc, en général, le souverain ne sait pas qu'il tient son pouvoir de Dieu. Et pourtant, il le tient de Dieu et il a la mission de représenter l'action de Dieu auprès de ses sujets. Alors, pas l'action du Dieu révélé par définition, puisqu'il ne le connaît pas, mais l'action de la Providence, telle qu'il peut la comprendre naturellement, dans l'ordre de la nature. Donc, les magistrats, s'ils se souviennent qu'ils sont vicaires de Dieu, doivent représenter aux hommes, en tout leur fait, comme une image de la Providence. Et c'est quoi une image de la Providence? Ils l'explicitent. Sauvegarde, bonté, douceur et justice de Dieu. Davantage, ils ont à se mettre toujours devant les yeux que si tous ceux qui besognent lâchement en l'œuvre de Dieu sont maudits quand il est question de faire sa vengeance, par plus forte raison, ceux-là sont maudits si en juste vocation ils versent déloyalement. Donc après leur avoir dit « Magnifique, vous êtes vicaire de Dieu », il leur dit « Faites attention, parce que si vous ne faites pas ce que vous devez faire, alors vous serez maudits par Dieu. Hein ?» Voilà, le bâton et la carotte, la flatterie et la menace. Nous avons caractérisé plus haut l'alliance biblique, vous vous en souvenez, par trois termes. La crainte, la promesse et l'alliance. C'est par la crainte, vous vous en souvenez, que le sujet se décentre de lui-même, mais la crainte serait servile si elle n'allait pas de pair avec la promesse d'une libération et d'un amour de Dieu. Et l'alliance, la loi, vient sceller un contrat entre les obligations réciproques de Dieu et du peuple. Eh bien, le même schéma s'applique exactement, mutatis mutandis, à la relation aux politiques. La conscience, cette fois, c'est plus l'étonnement devant la sainteté de Dieu, c'est dans la conscience. La conscience oblige chacun naturellement à prendre une distance par rapport à soi-même. Il est en quelque sorte forcé naturellement dans sa conscience à aller devant le siège judiciaire de Dieu, devant le trône de Dieu. C'est pas le Dieu de la révélation, c'est le Dieu tel qu'on peut se le figurer naturellement dans la conscience. Et la promesse consiste alors à découvrir que la providence de Dieu veut pour nous la vie et non pas la mort. Simplement la vie, c'est ici, la vie ici-bas, la vie sociale, la vie politique. Et la loi naturelle vient sceller finalement en une sorte de contrat ce qui lie le peuple au souverain. On comprend en quel sens il n'est peut-être pas mauvais, dit Calvin, que le prince inspire de la crainte, metus en latin, à ses sujets, parce que c'est un écho de la crainte due à la majesté divine, et ainsi qu'il le note déjà dans son premier ouvrage, le De Clemencia, inspirer de la crainte quand on est un prince, ça n'est pas inspiré de la terreur, comme le font les tyrans. La crainte repose sur une sorte de vénération devant la mission particulière qui est donnée au prince, alors que la terreur n'est inspirée que par la cruauté qu'afflige le tyran. Le magistrat ne peut remplir correctement sa mission qu'en s'exerçant aux vertus politiques. Alors, vous voyez, de même qu'on avait les vertus religieuses, vous vous souvenez, la prudence, la justice, la tempérance, etc., jusqu'à l'amour, eh bien, sur le plan séculier, sur le plan social, il va y avoir d'autres vertus qui vont être développées de manière parallèle. Et ces vertus sont, dit Calvin, l'intégrité, la prudence, la modération, l'innocence, la bonté, la douceur, la justice, on l'a déjà lu. Et dans le De Clemencia, son premier ouvrage, il dit ceci, « Parce que la conservation du genre humain lui est agréable, laquelle consiste en justice, droiture, modération, prudence, loyauté et tempérance, Dieu aime les vertus politiques, non pas qu'elles méritent salut ou grâce, mais parce qu'elles servent à une fin qu'il approuve. Cette fin que Dieu approuve, c'est évidemment la conservation du genre humain dans son humanité même. C'est les droits de l'homme, si vous voulez. L'homme ne peut être homme que s'il y a des droits de l'homme. Et ces droits de l'homme, c'est aux politiques de les garantir. Ça ne vaut rien pour le salut. Si vous respectez les droits de l'homme, ça ne vous servira à rien pour le salut, mais ça fera au moins en sorte que l'humanité, ici-bas, soit véritablement humaine. Mais la vertu ne suffit pas. Plus importante que la vertu est la loi. Dans le De Clemencia, Calvin ne contestait pas le droit romain qui voit dans le législateur le rassembleur du peuple et l'ultime interprète de la loi. Dans le De Clemencia, le prince est au-dessus des lois. C'est lui qui édicte les lois. Libre par rapport à la loi, princeps legibus solutus, le prince est lui-même, dit Calvin dans ce premier ouvrage de jeunesse, la loi vivante, l'ex animata. Et Calvin se contente alors de lui conseiller d'agir par la loi, de respecter au fond ce que lui-même édicte. Mais dans l'institution de la religion chrétienne, la situation est toute différente. Le prince n'est plus au-dessus des lois. Il est sous la loi. Soumis à la loi. Il n'est plus maître de la loi. Il est dominé par la loi. La loi lui échappe. Certes, Calvin ne plaide pas pour la démocratie ni pour la monarchie constitutionnelle, mais il est certain que ce principe introduit par Calvin va être à l'origine des monarchies constitutionnelles et de la démocratie. C'est un principe qui s'oppose fondamentalement à la monarchie absolue. Le prince est dans un contrat d'alliance avec le peuple. Ce contrat d'alliance est scellé par une loi, et si le prince ne respecte pas la loi qu'il est chargé d'appliquer, il perd la légitimité de son pouvoir. Donc vous sentez, je vais le développer lors du prochain cours, que cette idée-là sera à l'origine, par exemple, du droit de résistance, qui va faire connaître les réformés dans le monde entier, parce qu'ils seront les premiers à dire il y a des cas où on doit renverser le roi. Donc c'est une, vous voyez, cette petite nuance de dire est-ce que c'est la loi qui est au-dessus du prince ou est-ce que c'est le prince qui est au-dessus de la loi, elle va avoir des conséquences fondamentales sur l'histoire du droit et sur l'histoire de tout court. Calvin ne se fait aucune illusion. Spontanément, dit-il, la tentation du magistrat sera toujours de se mettre au lieu de la légitimité du pouvoir, de se mettre au-dessus des lois, et de donner à la loi la définition qu'il arrange lui. Mais, dit-il, ce n'est pas ainsi qu'il doit faire, il doit se soumettre à Dieu tel qu'il est compréhensible dans l'ordre de la nature, à Dieu tel qu'il est connu par la Providence. Il faut faire alors la différence entre ce qui est droit et équitable et ce qui n'a que l'apparence de justice. D'où le petit extrait que je vous ai mis, c'est la coutume des gens politiques de se montrer juge équitable en tant que cela leur est expédient, que cela leur est utile et profitable. Ce sera toujours la tentation du pouvoir de subordonner le droit à leur propre utilité et à leur propre profit. Mais si leur profit les appelle ailleurs, de se détourner ça et là. Cependant, ce leur est assez de farder cette perversité de quelques beaux titres de prudence, ce n'est pas ça la prudence finalement que doit avoir le prince ou le magistrat, d'autant qu'ils tiennent ce principe général que le monde ne peut être gouverné sans qu'elle connaisse apparence de justice. Mais, dans ce cas particulier, la finesse que j'ai dite l'emporte, qu'il regarde plutôt à ce qui est utile qu'à ce qui est droit et équitable. Donc, la tentation du pouvoir sera toujours de privilégier l'utilité à l'équité, mais évidemment, ce n'est pas ça qu'il doit faire. Il faut donc constamment rappeler au magistrat qu'il devra rendre compte à Dieu de son action et délimiter le politique dans les limites d'un cadre légal qui lui reste extérieur. Toute police, donc tout ordre public, si vous voulez, tend à ce but que Dieu ait son siège judicial dressé sur la terre pour y exercer la justice. Donc ce Dieu qui doit avoir son siège dressé sur la terre pour exercer la justice, encore une fois, pour éviter tout équivoque, c'est pas le Dieu de Moïse. C'est pas le Dieu de la révélation biblique. C'est le Dieu tel que la nature peut se l'imaginer. Évidemment, tel que la nature l'imagine, ça n'est qu'une idole. Calvin ne pense pas du tout qu'on puisse se faire une idée vraie de Dieu. Ce n'est pas la connaissance du vrai Dieu. Mais c'est la connaissance que la providence de Dieu a laissée en l'homme pour qu'il puisse vivre humainement. Il faut, vous retrouvez exactement cette idée-là, par exemple, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789, au nom de l'être suprême, ou dans la Constitution suisse, au nom du Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant de la Constitution suisse, c'est pas le Dieu de la révélation biblique. C'est pas ça. C'est pas une affirmation sur Dieu en réalité. Mais il faut qu'il y ait symboliquement une extériorité au pouvoir, quelque chose qui échappe totalement au pouvoir, y compris à ceux qui élaborent la Constitution, et qui scelle en quelque sorte les droits inaliénables que le politique lui-même ne pourra jamais outrepasser. C'est exactement cette idée-là qui est chez Calvin. Donc toute police tend à ce but que Dieu ait son siège judicial dressé en la terre pour y exercer sa justice, afin que tous, juges et supérieurs, ne s'attribuent une puissance laquelle ne soit sujette à nulle loi et qu'ils ne se donnent point licence de rien décréter à leur appétit ou fantaisie. Bref, qu'ils ne ravissent pas à eux ce qui est propre à Dieu, car les magistrats ne se porteront jamais qu'en se connaissant vicaires et officiers de Dieu. On le verra plus loin. Si on voulait l'interpréter dans des termes plus modernes, on dirait que Calvin s'oppose ici à quoi ? Comment est-ce qu'on appelle cette tentation aujourd'hui ? Le totalitarisme. Le totalitarisme, c'est quand le politique se prétend, se met sur le même plan que Dieu. Il est la norme ultime du bien et du mal. Il totalise les choses. Or, c'est précisément ça que Calvin veut éviter en disant « La seule manière d'éviter le totalitarisme, c'est que le pouvoir politique soit limité par le droit. » Donc, c'est symboliquement le lieu de la totalité, c'est Dieu, et c'est pas le pouvoir, c'est pas le prince. Donc la loi naturelle, pour Calvin, fait médiation entre la providence et le politique, elle permet de distinguer la légitimité et la validité de l'exercice du pouvoir. Le pouvoir est valide puisqu'il assure un ordre dans le monde, et que même s'il ne connaît pas Dieu, il élabore des lois qui sont conformes à ce que Dieu attend. Mais, et de ce point de vue-là, on peut dire que la validité du pouvoir est directement corrélée à la bonté de Dieu qui conserve l'humanité, qui conserve une vie proprement humaine, mais le politique n'est pas nécessairement légitime. Pour qu'il le soit, le politique doit exercer son pouvoir en accord avec la loi naturelle. Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on connaît cette loi ? Si ce n'est pas le politique qui peut la décréter, d'où la connaît-on ? Eh bien, c'est très simple, pour Calvin, on la connaît tous par la conscience. C'est la conscience qui se substitue au pouvoir, au magistrat, au prince, pour déterminer ce qu'est la loi. En conscience, tout homme doit pouvoir discerner quel est le fondement de l'ordre humain et finalement, le politique doit rendre compte de son action devant la conscience de ses sujets. Oui. Non, pas du tout méfiant. Pas du tout méfiant parce que lui, il pense, on va le lire, on va le voir, lui, il pense que tout homme, dans sa conscience, peut voir, en fait, ce qui est nécessaire pour que la vie soit proprement humaine. Ça ne veut pas dire qu'on le fait, qu'on le respecte, mais on le voit clairement. C'est du moins ce qu'il pense. De ce point de vue-là, si vous voulez, il y a une grande continuité entre Calvin et la philosophie du XVIIIe. Prenons un Kant, ça ne veut pas dire que Kant a lu Calvin, mais c'est exactement cette idée que l'homme, dans sa conscience, peut voir quel est son devoir. Et cette idée-là, ben évidemment, elle est à la base aussi des droits de l'homme. Oui ? C'est la même. C'est pour ça qu'elle n'a aucun sens pour le salut. Elle n'a aucun sens pour connaître le vrai Dieu. Elle n'a aucun sens pour connaître qui est le Christ. Mais elle suffit parfaitement pour pouvoir assurer dans ce monde une vie proprement humaine. Et c'est pas rien. Et c'est pas rien. Donc vous sentez, quand je vous disais que si vous êtes de cette tradition-là, ou si vous connaissez les gens qui vivent de cette tradition-là, vous sentez qu'il y aura pour les réformés une double obligation, l'obligation proprement religieuse d'une union au Christ, mais tout aussi importante, il y aura l'obligation de faire en sorte que ce monde soit juste. Par-delà les frontières de l'Église. Et par-delà les frontières de l'interprétation chrétienne des choses. C'est tout aussi important de lutter pour qu'il y ait du droit, qu'il y ait de la justice, qu'il y ait des droits de l'homme, qu'il y ait de l'équité entre les hommes, que de lutter en soi-même pour suivre le Christ. Les deux choses ne sont pas... Il ne faut pas choisir entre les deux. Il faut faire les deux, en quelque sorte. Même si les deux paraissent commander des conduites et des éthiques différentes. Je l'ai lu il y a un instant, il y a quelques semences en tous qui procèdent de nature, sans maître ni législateur. Cette semence qui est en tous, par la nature, sans maître ni législateur, cette conscience universelle, eh bien, Calvin en trouve la preuve de nouveau chez les auteurs païens, chez Cicéron, toujours les mêmes, hein, tous ceux qui lisent quotidiennement. Bon. Mais aussi, et j'ai déjà mentionné ce texte, dans l'épître de Paul aux Romains. La loi gravée dans les cœurs de Romains 2, 14 à 16. Tout homme, dit Paul, a quelque intelligence naturelle de la loi. Ou au moins c'est comme ça que Calvin reprend ce que dit Paul. Certes, dans le contexte de Romains 2, 15, l'apôtre ne cherche pas à penser une fonction positive de la loi. Au contraire, il cherche à montrer que tout homme est pécheur parce que même les païens ont eu accès à la loi et ne l'ont pas respectée. Certes. Hein. Donc l'argument paulinien, c'est de dire qu'il y a une culpabilité égale des païens et des juifs. Il n'en reste pas moins, dit Calvin, que si la loi peut avoir pour les païens un usage dénonciateur, hélénctique, vous vous souvenez de ces usages de la loi, elle a aussi un usage positif, comme la loi révélée, qui est de montrer aux hommes la volonté de Dieu. Avant de prendre la pause, on lit encore cette citation sur la conscience. « Il n'y a pas de plus grave tourment, ni plus horrible qu'une mauvaise conscience, car combien que les hypocrites et les incrédules tâchent en toutes sortes de se rendre stupides, toutefois, parce qu'ils n'ont pas de paix avec Dieu, il faut nécessairement qu'ils tremblent, qu'ils ne sentent les tourments présents, et qui pisaient qu'ils se débordent d'une licence forcenée, néanmoins, ils ne sont jamais en repos et ne peuvent jouir d'une vraie joie. » Tout homme, même s'il paraît le plus loin de Dieu possible, finalement, par la mauvaise conscience, il est en quelque sorte ramené par Dieu à la connaissance de quelques principes naturels de la loi. Je ne sais pas si le nom de Jean Gosse vous dit quelque chose. Jean Gosse qui était un non-violent pendant la dernière guerre, qui était dans les camps. Puis Jean Gosse était témoin du fait qu'un nazi, tous les jours, donnait une rossée à un pauvre type qui était dans le camp. Et Jean Gosse est allé voir ce nazi et lui a dit, si en conscience tu penses que tu dois donner une rossée à quelqu'un, donne-la-moi à moi. Ah, tu veux une raclée, t'en auras une. Non. Je te dis, si en conscience tu penses que tu dois donner une raclée à quelqu'un, tu me la donneras à moi. Mais la conscience, ça n'existe pas, c'est n'importe quoi. La preuve, dit Jean Gosse, que c'est pas n'importe quoi, c'est que ce que je te dis là, tu t'en souviendras toute la journée. Et de ce jour-là, dit-il, il n'a plus jamais donné de rossée. Donc, évidemment, c'est pas un truc. Hein. Et Jean Gosse était fortement exposé en disant ça. Mais c'est cette idée-là. Même celui qui se comporte de manière la plus odieuse possible, il a encore une conscience. Et si on s'adresse à lui en sa conscience, il sait que ce qu'il fait ne correspond pas à ce qui est humain en lui. Voilà, on prend la pause. avant que je reprenne, est-ce que l'un ou l'autre a une question de clarification? J'essaie d'être le plus clair possible, mais je sens bien que ce sont des choses un peu abstraites. Donc, il est écartelé. Je pense que vous avez tout à fait raison. Il est écartelé, mais voilà, il est en même temps homme et solidaire de ce point de vue-là de tous les autres hommes, et en même temps, il est croyant. Et de ce point de vue-là, il doit être comme le Christ. Mais cet écartèlement du chrétien correspond en fait à un écartèlement en Dieu. Parce que Dieu est en même temps Providence et Christ. Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les justes, et ne fait exception de personne, et en même temps, voilà, il meurt pour les élus, pense Calvin. Donc, il y a deux économies qui nous paraissent contradictoires en Dieu, mais ces deux économies sont liées dans l'unicité de Dieu. Et en quelque sorte, le croyant doit faire la même chose. Il doit lutter sur deux fronts, entre guillemets, qui paraissent contradictoires, mais on ne peut être véritablement homme qu'en étant humain. Donc, en même temps, l'homme véritable, c'est le Christ, ecce homo. Et en même temps, ben, il faut être humain, humain trop humain, comme dirait Nietzsche. Donc, comment être l'un et l'autre à la fois? Et il me semble que c'est vraiment ça le défi qu'essaye de penser Calvin, et comme on le verra, toute sa théologie s'articule sur ces deux niveaux. Il ne veut pas penser l'un sans l'autre. Il est vrai homme et vrai Dieu. Jésus est vrai homme et vrai Dieu, et nous devons être à la fois vrai homme et vrai croyant. Ou pour le dire encore, le croyant doit faire preuve et de justice et d'amour. Mais il ne doit pas choisir entre la justice et l'amour. Si au nom de l'amour, il se met à ne pas être juste, il n'aura rien compris de l'amour.
Comment ça va réagir quand ces deux niveaux sont presque les mêmes?
Alors on va voir. On va voir, parce que c'est, pour lui, c'est tout l'objet de la théologie, c'est de comprendre comment s'articulent ces deux choses. Et, oui. Il le sait dans sa conscience, bien sûr qu'il le sait. Mal. Oui. Consciemment, il sait. Mais regardez ceux qui ont certainement, on ne va pas stigmatiser certains ni réduire complètement les choses, mais prenez la crise actuelle. Il y a des effets de système, etc. Mais il y a des gens qui ont mal agi. Ils savaient très bien qu'ils agissaient mal. Hein? Ils ne l'ont pas fait simplement par manque de connaissance. Ils savaient que leur cupidité, leur intérêt, leur appétit du lucre l'emportaient sur ce qu'ils voyaient être correct. Hein? Donc, pour Calvin, on pourra discuter, c'est ce qu'on va faire maintenant d'ailleurs, qu'est-ce qu'on connaît, quelle est cette loi qu'on connaît naturellement? Quel en est le contenu? Hein? Là, on peut discuter, parce que les frontières sont pas évidentes à tracer. Mais, en gros, on sait très bien. Alors justement, comment est-ce qu'on sait? Oui. Oui.
Donc, qu'un mal savait qu'il faisait mal quand il avait donné le
permis? Bien sûr. Bien sûr. On parlera de Servet plus tard. Mais, en gros, il y a dans la conscience de chacun, indépendamment de la foi, il y a des repères fondamentaux sur ce que c'est que la vie humaine. Si Dieu n'a pas laissé les hommes gouverner par des lois mécaniques ou par l'instinct, c'est qu'il a choisi de laisser les hommes gouverner par leur conscience. Pas par leur raison, par leur conscience. Et vous vous souvenez qu'il y avait une différence entre la conscience et la raison, c'est que la conscience, l'homme en était maître. La raison, l'homme en était maître, alors que la conscience, c'est ce qui fait chaque fois cum scientia, qui fait l'interface entre l'homme et Dieu. Peut-être le Dieu qu'il imagine, qui n'est pas le vrai Dieu, mais Dieu. Donc, pour Calvin, ça va tout changer, par exemple, de dire que c'est par la conscience et pas par la raison. Parce que la théologie scolastique, la théologie catholique de cette époque-là, développait, elle aussi, une loi naturelle connue par l'homme dans sa raison. Calvin va avoir une position assez proche à certains égards, mais assez différente aussi, puisqu'il va, il va défendre que c'est par la conscience et pas par la raison. Mais je ne vais pas m'étendre dans des subtilités, sinon je vais vous perdre, ce que je ne voudrais pas. Là, quand Calvin essaye de définir, et je reprends le cours, quand Calvin essaye de définir quel est le contenu de cette loi de nature, il peut le faire de plusieurs façons. Et on va voir qu'il le fait au moins de 3 ou 4 façons différentes, ce qui prouve que c'est pas simple. La première raison, la première manière, grande manière de le faire, c'est qu'il va dire la loi de nature, c'est tout simplement l'équité. L'équité. Pas évident de définir ce que c'est que l'équité. Et là, et ben une fois de plus, il va reprendre les auteurs antiques et voir qu'est-ce qu'on dit dans l'Antiquité sous le terme d'epiaikeia, d'équité, dans la littérature grecque. Alors, il voit par exemple que c'est la rectification d'une loi positive qui est défectueuse en raison de sa généralité. Vous dites, vous faites une loi très générale qui dit quelque chose. Et puis dans le concret, comme la loi est très générale et qu'elle ne vise pas le cas particulier, il peut se trouver que la loi soit inéquitable. Parce qu'il y a une différence entre l'affirmation générale et le cas particulier. C'est comme ça qu'Aristote définit l'epiaikeia dans l'éthique à Nicomaque. Mais il y a d'autres définitions de l'équité. Il y a par exemple, tout simplement, la loi naturelle, c'est comme ça que Cicéron ou Sénèque définissent, ou le droit romain définissent l'équité. Il y a aussi l'idée de la justice en général, soit au sens de la dikaiosune, donc de la justice telle qu'elle est présente dans le Nouveau Testament, soit comme principe interprétatif de la loi. Vous avez vos règles de droit, mais vous devez avoir un principe supérieur, en quelque sorte, qui vous permet d'interpréter le droit. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'équité dans l'Antiquité. Par exemple, au sens où aujourd'hui on parle de fairness, d'égalité de traitement. Hein. Bon, ben, c'est comme ça qu'on traduit l'équité dans l'Antiquité. Mais l'équité, ça peut être aussi l'interprétation favorable de la loi, tempérée par la clémence. Le juge a une sentence équitable dans le sens où il va donner toujours la peine la moindre possible, ou essayer d'être le plus miséricordieux possible, entre guillemets. C'est ce qu'on voit par exemple dans le code de Justinien, mais aussi chez Aristote. Bon. Autrement dit, Calvin va reprendre chacun de ces sens de l'équité qui viennent de la tradition antique des auteurs païens, mais dont il trouve évidemment chaque fois un écho dans le texte biblique. Donc, vous trouvez ça dans la Bible, mais vous n'avez pas besoin de la Bible pour le lire. Même le sens de l'équité comme miséricorde, vous pouvez le trouver chez les auteurs anciens. Alors, là-dessus, je pourrais détailler, si ça intéresse quelqu'un, je pourrais lui donner... J'ai travaillé cette question-là, donc c'est une question délicate et un peu technique, si vous voulez, hein, d'interprétation des sources par Calvin. Mais disons que pour lui, je suis convaincu, plus je travaille la question, qu'il ne voit pas de divergence profonde entre la tradition biblique et les auteurs anciens sur le noyau dur, au fond, de l'équité, noyau dur dans ses divers sens. Et Calvin va d'ailleurs très très loin, parce qu'il y a une autre manière très très classique de définir l'équité, c'est de dire c'est l'égalité et la réciprocité. Tout homme est votre égal, et ce qui vaut pour l'un vaut aussi pour l'autre. Ça, c'est la définition basique en quelque sorte de l'équité. Mais Calvin va en quelque sorte plus loin, parce qu'il va dire nous devons être équitables même avec ceux qui nous sont inégaux par définition, c'est-à-dire les animaux. C'est surprenant. Ce qu'on s'attendrait à ce qu'ils disent, justement, parce qu'il fait cette distinction toujours très nette entre les animaux et les humains, qu'il faut être équitable vis-à-vis des humains, mais pas vis-à-vis des animaux. Bien, mais j'ai trouvé plusieurs passages chez Calvin où il vous dit, par exemple, ceci, parle des animaux, que nous les traitions humainement, c'est nous qui devons être humains, c'est pas l'animal, évidemment, que nous les traitions humainement, en sorte qu'en exerçant équité, nous fassions notre devoir jusqu'aux bêtes brutes qui n'ont pas de raison ni d'intelligence et qui ne peuvent pas se plaindre des injures qu'on leur fait. Donc, autrement dit, l'équité doit aller très très loin jusqu'à considérer que ceux qui nous sont par définition inégaux, les animaux, soient traités comme s'ils étaient nos égaux, parce que ce sera notre manière de respecter l'humanité en nous. Celui qui torture un animal ne devra pas le faire, pas parce que l'animal c'est un être humain, mais parce qu'il ne se respecterait pas lui-même comme humain s'il était capable de torturer un animal. C'est à lui-même qu'il ferait injure d'abord. Bon. Oui. Oui, alors peut-être que Calvin est orgueilleux de ce point de vue-là. À cet égard-là, c'est-à-dire que lui donne crédit aux auteurs de l'Antiquité. Et il ne pense pas du tout qu'il fasse fausse route, parce qu'il pense qu'il faut que l'homme respecte sa propre dignité. Alors on peut trouver ça orgueilleux. Lui pense qu'il faut le faire. Et qu'il n'y a pas besoin de religion pour ça. La conscience suffit. Alors, bon. Autre manière de définir cette loi de nature, ce sera de définir ce que Calvin appelle la loi morale. La loi morale, vous avez deux manières d'approcher la loi morale. Vous aurez une manière proprement religieuse d'approcher la loi morale. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre le texte biblique, et notamment tout le texte de l'Ancien Testament, tout ce qui est dit sous le registre de la loi dans l'Ancien Testament, et puis vous allez dépouiller tout ça de ce qui est désormais caduc. Alors, il y a deux raisons pour lesquelles ça peut être caduc. La première raison, c'est que, dit Calvin, vous devez enlever tout ce qui est cérémoniel dans la loi. Toutes les cérémonies, toute la liturgie, tous les sacrifices, toutes ces choses-là, parce que ça a été abrogé par le Christ. Donc vous enlevez tout ça. Et puis vous enlevez tout ce qui est judiciaire, dit Calvin. C'est-à-dire toutes les lois que Moïse a édictées comme législateur, pas comme prophète. Mais comme législateur, parce qu'il s'adressait à un peuple particulier, dans un contexte culturel particulier, qui n'a plus rien à voir avec nous. Pardon ? Voilà. Mais il reste l'essentiel. Il reste l'essentiel. Et quel est l'essentiel que Dieu veut dire ? Parce que ce qui est parole de Dieu dans la Bible, c'est pas les lois cérémonielles. C'est pas les lois judiciaires. Ce qui est éternel, dit Calvin, c'est la loi morale. Et la loi morale, à votre avis, ça correspond à quoi? Ça va revenir à la conscience, ce sera la même loi. Ce sera la même loi, évidemment. Ce sera le décalogue. Ou au moins, une version simplifiée du décalogue. Alors, c'est pour ça que je vous ai mis ce texte-là. Or, comme ainsi soit que la loi de Dieu, que nous appelons morale, ne soit autre chose qu'un témoignage de la loi naturelle et de la conscience. C'est la même chose. Que vous le preniez par le texte biblique ou que vous le preniez par la conscience, c'est la même. C'est rien d'autre. Laquelle notre Seigneur a imprimée au cœur de tous les hommes. Il n'y a doute que cette équité dont nous parlons maintenant ne soit en celle-ci parfaitement déclarée. Pour cette raison, il convient que cette équité soit le but, la règle et la fin de toutes les lois. De Rechef, toutes les lois qui seront compassées, qui seront, comment est-ce qu'on dit en français aujourd'hui, qui seront... soumises, ouais. Qui seront soumises à cette règle, qui tendront à ce but et qui seront limitées en ses bornes, ne nous doivent pas déplaire. Comment que ce soit qu'elles diffèrent de la loi de Moïse, ou bien entre elles-mêmes, ça n'a aucune importance si elles ne sont pas conformes à la loi de Moïse. Calvin va prendre plein de positions sur la loi qui vont être différentes de ce qu'il y a dans le texte biblique. On le verra par exemple à propos de l'usure. Du prêt à intérêt. Le prêt à intérêt est constamment condamné par le texte biblique. Calvin va dire, il faut le faire. Il faut le faire parce que c'est une meilleure interprétation de l'équité pour nous qui vivons dans un contexte qui n'a plus rien à voir avec celui de l'Ancien Testament. Donc ce qui compte, c'est de reprendre la loi morale. Bon. Mais si est-ce qu'une telle diversité... Elles tendent toutes à une même fin, car tout ensemble prononce sentence de condamnation contre les crimes qui sont condamnés par la loi éternelle de Dieu. Qu'est-ce qui est éternel dans la loi de Dieu? C'est à savoir la condamnation des homicides, des larcins, c'est-à-dire du vol, des adultères, des faux témoignages. Seulement, elles ne conviennent pas en égalité de peine, ce qui n'est pas nécessaire, ni même utile. C'est pas utile que l'adultère soit puni de la même manière dans toutes les sociétés ou que le vol soit puni de la même manière dans toutes les sociétés. Ça va dépendre du contexte social, etc. Mais au moins, faut-il le condamner chaque fois, d'une manière ou d'une autre. Il y a telle région qui serait incontinent, désolée par meurtre et brigandage si elle n'exerçait horrible supplice sur les homicides. Il y a tel temps qui requiert que les punitions soient augmentées. S'il est advenu quelque trouble en un pays, il faudra corriger par nouveaux édits les maux qui ont été accoutumés d'en sourdre. En temps de guerre, on oublierait toute humanité si on y tenait bride plus étroite en punissant les excès, etc. Donc, peu importe qu'il y ait des législations différentes, parce que probablement chaque législation va être adaptée à un contexte particulier, mais il faut que la loi morale, elle, qui est au fond le cœur de la loi révélée et qui est en même temps accessible par chacun sa conscience, soit intacte. Et cette loi de nature, elle tient à très très peu de choses. Oui. Oui. Non, c'est les droits de l'homme, il n'y a pas de référence à Dieu, ou au moins pas au Dieu de la révélation. Non, c'est-à-dire, il faut référer ça à autre chose qu'à nous-mêmes. Que vous le référiez à l'être suprême, comme les révolutionnaires de 1789, qui n'étaient pas des bigots, encore une fois, que vous le référiez à la nature, ou que vous le référiez à un symbole quelconque, mais à quelque chose qui nous échappe. Ça vient de plus loin que nous. C'est pas nous qui choisissons ce qu'est l'humanité. Nous savons ce qu'est l'humanité. Il y a quelque chose qui nous précède. On sait que torturer, c'est pas bien. On sait que l'inceste, c'est pas bien. On sait que le meurtre, c'est pas bien. Donc, d'où est-ce que ça nous vient? Si vous êtes croyant, vous pensez que ça vient de Dieu. Si vous n'êtes pas croyant, vous pouvez le référer à autre chose. Mais ça ne vient pas de vous. Ce n'est pas vous qui décrétez un jour que l'inceste n'est pas bien. Vous le savez. C'est au moins ce que pense Calvin. Alors, une autre manière encore de définir cette loi de nature, c'est tout simplement la règle d'or. Vous connaissez tous ce que c'est que la règle d'or. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te soit fait. Ça suffit. Ce que Calvin retient de la tradition biblique, quand on dit sola scriptura, il retient très peu de choses, il retient ça. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te soit fait. Ou bien, fais à autrui ce que tu voudrais qu'il te soit fait. Je vous ai mis ces deux petits passages. Voilà la loi de Dieu qui est immuable. Qu'est-ce que c'est cette loi de Dieu qui est immuable? Ainsi que nous avons dit, et il sera montré après qu'elle emporte son exécution. Au reste, puisqu'ainsi et qu'il nous y faut point aller par finesse ni par subtilité, il nous faut revenir à cette équité naturelle. La loi de Dieu, c'est l'équité naturelle. C'est à savoir que nous ne fassions à autrui sinon ce que nous voudrons qu'on nous fasse. Ou bien dans un autre passage, surtout que nous regardions à cette équité naturelle de ne faire à autrui que ce que nous voulons nous être fait. Quand donc un homme a quelqu'un à son service, il doit regarder, si j'étais en leur lieu, comment voudrais-je être traité ? Voilà, ça suffit, vous n'avez pas besoin de choses très très subtiles, ni très fines, etc. Demandez-vous simplement, voilà, qu'est-ce que je ferais si j'étais à sa place ? Il va en déduire toutes sortes de conséquences, hein, depuis le salaire de la femme de ménage jusqu'à l'organisation du monde. On le verra. Autre manière de le dire, c'est de résumer ça au sommaire de la loi. Vous savez, la manière dont Jésus résume la loi. Tout aussi bien l'exprimer de cette manière-là. Nous commencerons, dit Calvin, par la loi morale, comme ainsi, soit qu'elle contienne deux articles, dont l'un nous commande simplement d'honorer Dieu par pure foi et piété, et l'autre d'être conjoint avec notre prochain, par vraie dilection, par vrai amour. À cause de cela, elle est la vraie et éternelle règle de justice, ordonnée à tous hommes, et en quelque pays qu'ils soient, ou en quelque temps qu'ils vivent, s'ils veulent régler leur vie à la volonté de Dieu, car c'est sa volonté éternelle et immuable qu'ils soient honorés de nous, et que nous nous aimions mutuellement les uns les autres. Quelle est la différence entre ces deux règles immuables, hein? Tout à l'heure, il y avait aussi cet adjectif immuable. Oui. Exactement. Naturellement, on peut dire que ce qui concerne la deuxième table, donc la seconde table de la loi qui règle notre relation à l'autre, ça, la loi naturelle peut le voir. La conscience de tout homme peut le voir. Et pourquoi peut-elle le voir ? Parce qu'elle y a en quelque sorte intérêt. C'est l'intérêt de tout le monde que nous ne nous volions pas, que nous nous respections à peu près les uns les autres et que nous nous considérions comme des égaux. Mais Dieu, mais la première table, y a-t-il une connaissance naturelle de la première table ? Là, ça répond un peu à votre question. Est-ce que ce Dieu, c'est simplement une image, une espèce d'idée, ou est-ce que c'est quand même quelque chose de plus profond ? Là, on entre dans une question délicate. Alors, évidemment, on peut dire que Calvin va s'en référer immédiatement à Paul. Quand Paul dit que, dans le texte des Romains, que tout homme a connaissance de la loi, de quelle loi s'agit-il ? Voilà ce que dit Calvin. Dieu n'a pas délaissé le genre humain. Il commente ce passage-là. Bon. Dieu n'a pas délaissé le genre humain que toujours il y ait demeuré quelques semences de droiture. Il est vrai que les hommes sont bien aveuglés à cause du péché d'Adam, mais tant qu'il y a toujours, notre Seigneur leur a laissé quelques discrétions engravées en leur cœur, etc. Bon. Mais non, c'est pas ce passage-là que je, voilà, c'est l'autre passage qui suit que je voulais me référer. Tout ce qu'il nous faut apprendre est des deux tables. Donc des deux tables. Première table sur la relation à Dieu, deuxième table sur la relation au prochain. Tout ce qu'il nous faut apprendre est des deux tables nous est enseigné par la loi intérieure, laquelle nous avons ci-dessus dit d'être écrite et quasi imprimée au cœur de chacun. Car notre conscience ne nous laisse pas dormir d'un somme perpétuel, sans aucun sentiment, qu'elle ne nous rende témoignage au-dedans et admoneste ce que nous devons à Dieu, qu'elle nous montre la différence du bien et du mal, et qu'elle nous accuse quand nous ne faisons pas notre devoir. Bon. Sur la deuxième table, encore une fois, c'est plus facile à comprendre. Vous verrez, je vous ai mis quelques citations. Mais maintenant, sur la première table. Là, Calvin va défendre une idée qui va de nouveau emprunter. Il ne peut pas l'emprunter à la Bible, parce que s'il l'empruntait à la Bible, on dirait, mais tu nous dis que c'est l'ordre de la nature, puis tu réintroduis des arguments d'autorité biblique. Ça ne peut pas jouer. Et donc, il va chercher chez les auteurs païens une justification du fait que tous les païens ont toujours pensé qu'il y avait un Dieu. Ce Dieu, c'est évidemment une idole chez les païens. Mais tous les auteurs de l'Antiquité ont toujours pensé qu'il y avait un Dieu. Je vous lis cette citation. Alors maintenant, il nous faut brièvement déclarer quel est l'office des magistrats. Or, si l'Écriture n'enseignait qu'il appartient à toutes les deux tables de la loi, nous le pourrions apprendre des écrivains profanes. On peut apprendre des écrivains profanes que le rôle du magistrat est de faire respecter aussi la loi naturelle dans la relation à Dieu, la première table. Car il n'y a nul d'entre eux ayant à traiter de l'office du magistrat de faire des lois et ordonner la police qui n'est commencé par la religion et par le service de Dieu. Et par cela, tous ont confessé qu'il ne peut s'établir heureusement aucun régime en ce monde qu'on ne pourvoie avant tout à ce point que Dieu soit honoré et que les lois qui laissent derrière l'honneur de Dieu pour seulement procurer le bien des hommes mettent la charrue avant les bœufs. Et il cite ici Cicéron. Puisse donc que la religion a tenu le premier et souverain degré entre les philosophes et que cela a été observé toujours entre les peuples d'un commun accord, les princes et les magistrats chrétiens doivent avoir bien honte de leur brutalité s'ils ne s'adonnent soigneusement à cette étude. Donc vous voyez, en prenant appui sur les auteurs de l'Antiquité, il dit « On ne doit pas mettre la charrue avant les bœufs, le plus important même pour la loi naturelle, c'est l'honneur qu'on doit à Dieu. » Mais à quel Dieu? Quel type d'honneur? Évidemment, se référant aux auteurs classiques latins, la religion, c'est la religion civile, dans l'Antiquité romaine, et le Dieu des Romains, c'est pas le Dieu chrétien, bien sûr. Ou le Dieu de Platon, c'est pas le Dieu chrétien. Mais il n'empêche qu'il faut qu'il y ait un élément religieux. Ça, au fond, quelle est l'idée? L'idée, c'est celle que on retrouvera finalement jusqu'au XVIIIe siècle, c'est qu'il ne peut pas y avoir de paix et d'ordre entre les hommes s'il n'y a pas un jour un jugement. Un jugement. Et que s'il n'y a pas de jugement, si on est athée, en quelque sorte, on sape fondamentalement l'ordre de l'État. Alors cette pensée peut nous sembler bizarre parce que nous vivons dans un autre monde que celui de Calvin. Mais jusqu'au XVIIIe siècle, on pensera que s'il n'y a pas d'immortalité de l'âme et s'il n'y a pas un jour un jugement, on fera n'importe quoi. Et que les lois seront incapables de garantir un ordre social possible. Alors vous pouvez trouver ça ridicule, ça l'est à certains égards, parce que c'est plus du tout ce que nous pensons dans notre société. On pense pas qu'il faille, que la motivation morale finalement soit liée au jugement dans un autre monde. Mais c'est ce qu'on pense encore, deux siècles après Calvin. Donc, de ce point de vue-là, il n'est pas très original, et il pense effectivement comme le pensent les auteurs de l'Antiquité. Donc il y a bien une certaine connaissance de Dieu, mais qui n'est pas le Dieu de la révélation. Et cette certaine connaissance de Dieu est, au fond, utilitaire, instrumentale. Tout comme, naturellement, on ne vole pas pour ne pas être volé, eh bien, on va croire en Dieu parce que ça rencontre notre intérêt d'avoir une société humaine à peu près paisible. Donc, évidemment, ce sera assez modeste. Évidemment, ce sera une caricature qui n'a aucun sens vis-à-vis de la révélation, mais il n'empêche que, pour Calvin, ça montre que la même loi va être à l'articulation de deux mondes. Donc, je vous ai mis un petit schéma sur vos feuilles que vous trouverez à la fin. Mais en gros, on peut le dessiner de la manière suivante. D'un côté, vous avez la Providence. De l'autre côté, vous avez le Christ. Évidemment, c'est une seule, c'est un seul et même Dieu, la Providence et le Christ. Il reste monothéiste, il est chrétien. Donc il y a la Providence et il y a le Christ. Dans l'économie de la Providence, eh bien, vous avez la loi naturelle avec ces deux tables qu'on interprète de manière modeste pour garantir une vie humaine. Du côté du Christ, cette loi naturelle, elle est comprise de manière complète dans le décalogue. Et vous vous en souvenez, il y avait ce principe notamment de la synecdoque, hein, au lieu de dire tu ne tueras pas, tu feras tout pour que l'autre vive, qui ouvre sur une éthique des vertus, une éthique de la perfection. Mais c'est la même loi qui fait charnière, parce que c'est la même loi qui est voulue par Dieu et c'est la même loi que les hommes doivent vivre. Et évidemment, la conduite du chrétien sera en même temps d'aller jusqu'au bout de la perfection de la loi, dans l'amour, et en même temps de faire en sorte que sur le plan humain et social, on puisse vivre véritablement la loi de la Providence. Calvin va même plus loin. Il pense que ce niveau-là prépare ce niveau-là. Et ça, c'est une des grandes originalités de Calvin. Non seulement il pense qu'il y a à côté, en quelque sorte, de l'Église, un ordre humain qu'il faut pouvoir préserver pour être humain, mais il pense que cet ordre humain, plus on humanise l'homme, plus on prépare l'annonce de l'Évangile. Alors, il va le défendre... j'entends du bruit dehors, j'espère que c'est pas ma montre qui a arrêté. Il est moins le quart, c'est juste. Oui, j'ai encore un quart d'heure.
Les anciens n'ont pas prévu cet aspect-là.
Non. Non. Jamais. Jamais. Donc là, on est à l'articulation de deux mondes. Hein. Rome et Jérusalem, comme disait. Oui. Oui, mais. Il ne peut pas y avoir exactement ça, parce qu'on peut pas, on peut imaginer bien sûr qu'il y a un Dieu.
Non, mais l'exigence d'une éthique.
Oui.
Dans la perfection.
Ah oui, ça c'est sûr.
Au-delà
de la... Ça c'est sûr. Bien sûr. On pourrait dire la même chose pour toutes les éthiques des vertus, hein. Chez Aristote, ce serait pareil, etc. Mais là où on ne peut pas aller sur ce versant christique, c'est tout simplement que la philosophie ne peut pas reconnaître le Christ. Donc, on est bien à l'articulation de deux mondes, Rome et Jérusalem, ou Athènes et Jérusalem. Mais ces deux mondes sont cohérents, en quelque sorte. Il y a des articulations, et l'articulation de ces deux mondes, c'est la loi. Alors, je vous disais il y a un instant, la loi politique, l'ordre naturel, prépare l'Évangile. J'ai déjà évoqué... plus haut dans ce cours, la question des usages de la loi. Vous vous en souvenez des trois usages de la loi, où je vous disais Calvin reprend les deux usages luthériens, mais rajoute un troisième usage, qui est l'usage principal, où il s'agit en fait de revenir à la loi de Dieu pour essayer d'y comprendre la volonté de Dieu. Ça, c'était un aspect sur l'éthique religieuse. Et puis Luther avait deux autres usages. Ces deux autres usages, c'était l'usage dénonciateur. Vous vous souvenez, la loi venait nous mettre notre nez là où on n'avait pas envie de voir, au fond, nos fautes, pour, en quelque sorte, préparer au salut. Et puis, Luther ajoute un autre usage, qui est l'usage politique. Pour Luther, l'usage politique, c'est que il faut bien que le prince punisse les méchants. C'est que la loi sert à instaurer un ordre de coercition. Calvin va avoir une vision beaucoup, beaucoup plus positive de la loi. C'est pas simplement d'instaurer un ordre de coercition pour punir les méchants afin que on soit à peu près dans un ordre stable pour annoncer l'évangile. C'est pas ça. Calvin va renverser l'ordre des usages luthériens. Et il va défendre cette idée que l'usage politique est lui aussi en un sens théologique. Pourquoi ? Parce que il le dit, l'usage politique accoutume petit à petit à vivre dans le concret le respect de l'autre. Et en nous obligeant à prendre autrui en considération, et en nous obligeant à le voir, on prépare en quelque sorte l'annonce de l'évangile. Donc il faudra prendre très très soin d'avoir les institutions politiques et sociales les plus justes possibles, même si elles restent en quelque sorte sans aucun sens pour le salut, parce qu'elles sont incapables de voir le Christ. Mais tout simplement parce que plus l'homme est humanisé, et plus on va loin dans l'humanisme, plus on prépare, en quelque sorte, l'écoute de l'évangile. Ça n'empêche pas que l'évangile reste seul, comme le dit Calvin, le patron de la vraie justice. Le patron au sens où vous faites de la couture et vous avez votre patron qui vous permet de découper votre jupe ou votre manteau. Le Christ est le seul patron de la vraie justice. Mais il n'empêche que ce qui vaut sur le plan civil et religieux, est préparatoire. Alors là aussi, je n'ai pas beaucoup le temps de le développer maintenant, mais je pourrais, si ça vous intéresse, vous le montrer facilement. Maintenant, quel est le rôle du chrétien ? Une fois que vous êtes de l'autre côté, entre guillemets. Première chose à dire, c'est que vous n'avez pas à sauver le monde, pense Calvin. C'est pas à vous qu'il appartient de sauver le monde, c'est à Dieu. Donc vous n'avez pas à chercher à sauver le monde, mais par contre, vous avez à chercher à rendre le monde présentable à Dieu. Humain. Parce que Dieu, vous le savez, a voulu que les hommes vivent de manière humaine. Encore une fois, les réformés ne vont pas envoyer de missionnaires. C'est un point très bizarre, très étrange. Première chose que fait Ignace de Loyola quand il se convertit, c'est d'aller vers les infidèles pour les ramener à la vraie foi. Les protestants ne vont envoyer de missionnaires qu'au XIXe siècle ou à la fin du XVIIIe siècle. Il faut attendre très longtemps pour qu'ils le fassent. Pourtant, ils connaissent ces gens-là. Ils connaissent. Quand il y a tous les bateaux, par exemple hollandais, Compagnie des Indes, qui sillonnent partout dans le monde, ils ne cherchent pas à convertir les indigènes. Ils envoient des pasteurs pour les Hollandais. Il faut attendre très longtemps. Ça, il y a une très très grande différence entre les catholiques et les protestants de ce point de vue-là. Mais, et c'est certainement un point qui est un point à mettre au crédit des catholiques et pas au crédit des protestants. Calvin pense que le monde a déjà été évangélisé. Et que ceux qui ne sont pas chrétiens ont refusé le Christ. Et donc, c'est pas la peine de revenir frapper à leur porte. Ils ont déjà refusé. Lui, il pense que les seuls auxquels il faut s'adresser pour les évangéliser, c'est ceux qui sont des hérétiques chrétiens, c'est-à-dire les catholiques et les musulmans. Il considère que les musulmans sont une secte chrétienne, comme les catholiques, et donc il faut les ramener à la vraie foi. Mais, donc il n'y a pas de... Oui. Ah ben les juifs, évidemment, c'est déjà des chrétiens. Ils ne le savent pas encore, mais ce sont déjà des chrétiens. Non mais là, de ce point de vue-là, il reprend simplement ce que dit Paul. N'oubliez pas que vous êtes des rameaux d'olivier sauvage qui ont été greffés sur l'olivier franc. Le vrai peuple, ou le seul peuple, c'est Israël. Et si l'alliance de Dieu est indéfectible, si elle est immuable, même le péché d'Israël ne peut pas enlever l'élection d'Israël. Pas du tout. Ah, Luther est très antisémite, Calvin pas du tout. Il ne peut pas être antisémite parce que Dieu ne peut pas, il n'y a pas du tout cette idée que Dieu avait donné son alliance à son peuple élu, mais comme le peuple élu a trahi l'alliance en mettant le Christ à mort, Dieu a substitué un autre peuple, l'Église, au vieil Israël. Ça, c'est la théorie qu'on défend dans le catholicisme et dans le luthéranisme à cette époque-là. Calvin, lui, pense que l'alliance faite avec Israël est indéfectible. Le peuple n'a pas le pouvoir d'enlever l'alliance qui a été faite avec lui. Et d'ailleurs, la preuve, dit Calvin, c'est qu'il y a encore des juifs. S'il y a encore des juifs, c'est pas parce qu'ils sont rusés ou parce qu'ils sont futés ou je sais pas quoi. C'est parce que Dieu n'enlève pas son alliance. Simplement, ils n'ont pas encore reconnu le Messie et ils vont reconnaître nécessairement un jour le Messie parce que c'est Dieu qui l'a promis. Simplement. Il n'y a rien à faire pour ça. C'est à Dieu de le faire. Bon. Donc, les réformés ne vont pas évangéliser. Ils vont chercher à christianiser ceux qui sont déjà chrétiens, les catholiques et les musulmans, les orthodoxes éventuellement. Vous savez qu'il y aura un patriarche orthodoxe qui deviendra réformé à ce moment-là, où le pauvre sera excommunié par les orthodoxes. Mais bref, on s'adresse aux gens qui sont déjà de la famille. Mais par contre, il faut humaniser le monde. Humaniser le monde, ça voudra dire garantir un ordre dans la vie humaine. C'est pour ça que je vous ai mis cette citation, parce qu'il me semble qu'elle est fondamentale pour comprendre Calvin. Le mot d'ordre convient bien, par lequel Saint-Pierre remonte que Dieu, fabricateur du monde, n'a pas délaissé le genre humain en confusion et désordre, afin qu'il vive à la manière des bêtes brutes, mais il a voulu que chaque partie, fut mise en son lieu comme en un bâtiment bien composé. Bâtiment, c'est le vaisseau, hein, le bateau. Chaque chose doit avoir un ordre pour que le bateau puisse avancer dans la mer profonde. Et ça, cet ordre, il est garanti par la justice. Et donc, comme protestant, il faudra, en quelque sorte, veiller à ce que les institutions humaines soient les plus justes possibles. Un tel programme cadrait d'ailleurs fort bien avec la concentration réformée sur la vie ordinaire. Et c'est un point de vue qui a été souligné par Charles Taylor, un grand philosophe contemporain canadien, qui a écrit un très très beau livre sur la constitution de l'identité moderne qui s'appelle « The Sources of the Self », qui a été traduit par « Les sources du moi », en fait il faudrait dire du « soi ». Et Taylor, qui est un catholique convaincu, regrette d'ailleurs cette concentration des protestants sur la vie ordinaire. Mais il l'a décrit très très bien. Il montre que pour la tradition médiévale, la grâce, c'est d'arracher l'homme à un monde déchu et de transcender l'ordre de la nature pour nous appeler à un autre bien. Mais dès lors que Calvin souligne moins la déchéance du monde que sa perfection dans le plan providentiel de Dieu, il s'agit moins d'être sauvé du désordre qui règne dans le monde que de réinstaurer de l'ordre dans le monde. Il faut faire en sorte que ce monde tel qu'il est puisse correspondre à ce qu'il est dans l'intention de Dieu. Dès lors que vous vous convertissez, que vous prenez le point de vue de Dieu, le point de vue de la providence divine, vous devez faire en sorte que ce monde soit le plus juste possible. L'éthique réformée, donc, est constituée par une double loyauté. D'un côté, la radicalité de l'amour évangélique. De l'autre côté, la justice sociale. Ou humaine, simplement. D'où l'insistance que Calvin va donner à la pratique du droit. L'ordre que le fidèle a mission de soutenir est d'abord un ordre juridique, je l'ai dit à plusieurs reprises. Je vous cite encore cette citation de Calvin. Connaissons donc que non sans cause Dieu a établi l'ordre du justice terrestre. Connaissons une bonté admirable de notre Dieu quand il a eu le soin de nous conserver jusque là, que voyant que nous ne pourrions pas nous maintenir s'il n'y avait pas des lois qui nous contraignent, s'il n'y avait pas des juges pour exécuter ce qui est écrit. Et il a pourvu à tout là-dessus. Ainsi, nous sommes avertis d'aimer l'état de justice connaissant que c'est un don singulier de Dieu et un moyen de conserver le genre humain. Vous voyez que la tradition des droits de l'homme, évidemment, s'enracine là. Ce qu'on peut encore préciser, c'est que si quelqu'un avait envie, au nom de la révélation, d'imposer à l'ordre naturel des choses qui viennent de la Bible, qu'est-ce que leur dit Calvin, vous pensez? Non, il leur dirait, surtout ne faites pas ça. Ne cherchez surtout pas dans la Bible autre chose que la loi naturelle. Hein? Donc, je vous ai mis ça parce que ça s'oppose complètement à nos préjugés sur Calvin et la bibliocratie. Hein? Peut-être pas du tout pour une bibliocratie, encore moins pour une théocratie. Hein? Voilà ce qu'il dit. Ce qu'aucun ont l'habitude d'objecter, qu'on fait injure à la loi de Dieu donnée par Moïse, quand en l'abolissant on lui préfère des autres nouvelles, est une chose frivole. Car les lois que chacun des supérieurs ont en leur pays ne sont pas simplement préférées à la loi de Dieu comme meilleure, mais selon la condition et circonstances du temps, du lieu et de la nation. Davantage, ce faisant, la loi de Dieu n'est pas abrogée ni cassée, car jamais elle nous ne s'est commandée à nous gentils. Nous sommes des païens, et Dieu ne nous demande pas de suivre la loi de Moïse à la lettre. Il nous demande simplement de respecter l'équité, ou de respecter la règle d'or, ou de respecter les 10 commandements. Car notre Seigneur ne l'a pas administrée par la main de Moïse pour la publier sur toutes les nations et observer sur toute la terre, mais ayant reçu le peuple juif en sa spéciale sauvegarde, protection et conduite et gouvernement, il lui a voulu être aussi particulièrement législateur. Donc au fond, Moïse a interprété la loi d'équité ou la loi naturelle pour le peuple juif, il l'a très bien fait, pour le peuple juif, à nous de faire autrement pour nous aujourd'hui. Donc il n'y a pas du tout cette idée qu'il faudrait s'inspirer de la loi biblique pour gouverner l'État. Pas du tout. Alors, rapidement quelques mots de conclusion pour ne pas abuser de votre temps. Calvin a échoué. Il a raté, en quelque sorte. Un très très grand jurisconsulte de cette époque qui s'appelle François Hotman, qui a été l'un des plus brillants jurisconsultes du XVIe siècle, avait charge par Calvin de traduire ce projet-là dans le droit. Hotman a échoué. Les jurisconsultes de son époque ne l'ont pas reçu, et pour une raison très simple, que vous trouvez par exemple chez Jean Bodin, qui est un contemporain de Hotman. Bodin va dire que si le principe par lequel nous accédons à la loi naturelle est la raison, ou la conscience, mais mettons la raison, pourquoi le décalogue? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin du décalogue pour ça? Et Jean Bodin va définir, et Jean Bodin finalement va avoir la victoire sur Hotman, et Jean Bodin va dire que finalement le modèle de Calvin est trop peu théologique en un sens, mais surtout trop théologique, parce qu'il continue de garder quelque chose qui fait l'articulation entre la révélation et la nature, et cette chose là c'est le décalogue. Mais est-ce que c'est évident que la raison nous fasse découvrir le décalogue? Les philosophes du XVIe siècle déjà vont penser que non. Donc de ce point de vue-là, Calvin a échoué. Mais Calvin certainement a réussi à un autre plan. Il a réussi en montrant que pour être chrétien, il ne fallait pas simplement penser à sa propre perfection, mais penser à la justice du monde. Et il a réussi en articulant la justice et l'amour. Alors on verra certainement ça plus loin, notamment à propos de la philosophie contemporaine et de Paul Ricoeur en particulier. Mais on va juste lire la dernière citation que je vous donnais pour aujourd'hui. Voilà où il nous faut exercer si nous voulons régler notre vie à la volonté de Dieu, dit-il, car sans cela nous aurons beau nous contrefaire, que toute notre hypocrisie sera détestable. jusqu'à ce que nous ayons appris à cheminer en charité. Qu'est-ce que ça veut dire cheminer en charité? Qu'est-ce que ça veut dire vivre l'amour concrètement? C'est de garder l'équité de nature. La traduction de l'amour, ce sera la loi naturelle. Donc l'amour, pour prendre une forme pratique, a besoin de la loi naturelle. Mais pour vivre, mais en même temps, la loi naturelle a besoin de l'amour, parce que sinon, la loi naturelle devient purement utilitaire. Elle est purement soumise au jeu du do ou des. Je donne pour que tu donnes. Or, l'amour vient précisément ouvrir la loi naturelle à plus de justice encore. Je donne non pas pour que tu me donnes, mais je donne parce qu'il m'a été donné. Et pour Calvin, ça va changer complètement l'interprétation du droit. Donc, il y a besoin, l'amour a besoin de la justice a besoin de l'amour, et c'est là certainement une matrice que Calvin a permis de faire voir plus lucidement que personne d'autre avant lui. Voilà. On en reste là pour aujourd'hui. Ce que je ferai la prochaine fois, c'est que je vous montrerai les interprétations sympathiques que Calvin va donner de ce modèle-là. Et puis ensuite, nous verrons les interprétations antipathiques, c'est-à-dire que finalement, Calvin lui-même ne va pas respecter ça.